Vous êtes bien avec Radio Classique.
Il est 14h sur Radio Classique. Bon début d'après-midi à tous. C'est l'heure de retrouver Laurence Gontier.
Aurons-nous un Premier ministre dans les toutes prochaines heures? Emmanuel Macron poursuit ses consultations aux écologistes qu'il a reçus en fin de matinée. Il a proposé une nouvelle méthode pour construire le gouvernement, méthode qui passerait par l'organisation d'une réunion des différentes forces politiques pour échanger sur une plateforme programmatique. Marine Tondelier assure que le chef de l'État a également indiqué que la solution ne pourrait plus reposer sur un accord avec le Rassemblement national. Le centre de Damas théâtre ce matin de nouvelles scènes de liesse au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, chassé par une offensive de rebelles islamistes aussi rapide que spectaculaire. Des Syriens se sont rassemblés après la levée du couvre-feu nocturne. Les institutions publiques, y compris les écoles, sont fermées. Seuls que quelques commerces ont rouvert. À quelques heures d'une réunion en urgence consacrée à la situation du pays, l'ONU appelle à prendre toutes les mesures pour protéger les minorités en Syrie et à juger les crimes du passé. L'Union européenne appelle de son côté à une transition pacifique et ordonnée. Le Kremlin, lui, reconnaît avoir été surpris par l'offensive éclair des rebelles et refuse de confirmer la présence de Bachar al-Assad en Russie, où le dictateur aurait trouvé refuge avec sa famille. Le procès de Christophe Rougia vient de s'ouvrir devant le tribunal correctionnel de Paris. Le réalisateur est accusé par Adèle Haenel de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait entre 12 et 14 ans. L'actrice, qui s'est aujourd'hui mise en retrait du cinéma, a pris place dans la salle. Christophe Rougia, qui conteste les faits, risque jusqu'à 10 ans de prison. Pierre Palmade a été incarcéré près de Bordeaux. L'humoriste va purger sa peine de 2 ans de prison ferme pour le grave accident de la route qu'il a causé en 2023, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Il n'a pas fait appel de sa peine prononcée le mois dernier. Enfin, le tribunal administratif de Toulouse rouvre l'instruction du dossier de l'autoroute A69. Il a choisi de ne pas trancher tout de suite entre l'annulation et la validité de l'autorisation environnementale. Une nouvelle audience aura lieu dans les prochains mois. À la Bourse de Paris, le CAC 40 progresse. Plus 0,54% à 7467 points. Votre page d'histoire tout de suite avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un général américain qui était à la fois très brillant et très brutal, le général MacArthur.
Depuis plus de 100 ans, Nebouéam est la référence des amoureux du piano à Paris. Nebouéam ouvre une 4e boutique dans l'est de la capitale. Pianiste débutant ou confirmé, vous trouverez dans nos magasins un choix incomparable de pianos neufs ou d'occasion parmi les plus belles marques et les meilleurs conseils pour bien choisir. Rendez-vous chez Nebouéam et dans notre nouveau magasin à Paris, 8 rue Rondelet dans le 12e, métro Royer Diderot. Nebouéam, la passion des beaux pianos.
À 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Tokyo, dans un Japon meurtri, le dimanche 25 juin 1950. Je dis bien 1950. Le général américain Douglas MacArthur a 70 ans à cette époque. Il est à la tête des armées d'occupation du Japon, après avoir gagné la guerre dans le Pacifique et obtenu 5 ans plus tôt la reddition nippone. Il est 4h30 du matin ce dimanche 25 juin. Le téléphone sonne. MacArthur se réveille en sursaut et donc décroche, et au bout du fil, l'officier de permanence du grand quartier qui lui dit « Mon général, nous venons de recevoir une dépêche de Séoul, des troupes nord-coréennes ont attaqué en force et franchi le 38e parallèle ce matin à 4h ». Le 38e parallèle, vous savez, c'est cette ligne qui coupe en deux la Corée, péninsule montagneuse. Au nord du 38e parallèle, vous avez le régime communiste qui est dirigé par Kim Il-sung et qui est soutenu par l'Union soviétique de Staline et par la toute jeune République populaire de Chine, la République populaire de Chine de Mao. Et puis au sud de ce 38e parallèle, un régime dirigé par le nationaliste Zygmunt Rhee, qui est soutenu bien sûr par ce qu'on appelle à l'époque le monde libre, c'est-à-dire par les États-Unis de Truman essentiellement. C'est Kim Il-sung qui a décidé cette attaque à travers le parallèle, avec l'approbation bien sûr de Staline et celle de Mao. Au téléphone, MacArthur comprend tout de suite. Les rouges, comme il dit, c'est comme ça qu'il appelle les communistes, lui, les rouges sont en train d'envahir la Corée du Sud. Le grand chef militaire a l'impression de revivre Pearl Harbor, tant et soudaine. La nouvelle, inattendue, quoique. Dans ses mémoires publiées cette année chez Nouveau Monde Éditions, il présente les choses sans aucune nuance, MacArthur. Cette attaque est un premier défi de l'impérialisme communiste au monde libre, dit-il. Pour tout vous dire, côté occidental, personne n'a rien vu venir, pas même la CIA. Cependant, le président Truman est bien décidé à bloquer l'expansion communiste. Il va rester fidèle à sa doctrine du containment. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Truman obtient immédiatement le vote d'une résolution qui va condamner l'agression nord-coréenne et qui va autoriser, ce Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser une contre-offensive. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé, il faut quand même vous dire qu'à l'époque, l'Union soviétique est en train de boycotter l'ONU. C'est ce qu'on appelle la politique du siège vide. Donc, évidemment, personne ne s'est opposé directement à la résolution. Tout naturellement, c'est aux États-Unis que l'ONU confie la constitution d'une force d'intervention. Cette force, qui va la commander? Évidemment, MacArthur. Pour la première fois, les États-Unis, donc sous l'égide de l'ONU, vous l'aurez compris, entrent en guerre contre une armée communiste soutenue par l'Union soviétique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Quatre jours après cette attaque, après ce franchissement du 38e parallèle, MacArthur est déjà à pied d'œuvre en Corée. Il faut l'imaginer sur une colline qui domine Séoul. Voilà ce qu'il nous dit. C'est très intéressant d'avoir son propre avis sur la question grâce à la publication de ses mémoires. MacArthur nous dit « Séoul était aux mains de l'ennemi. Une fois de plus, après 50 ans de service, dont la moitié à l'étranger, je me trouvais en face d'une situation militaire désespérée. Une fois de plus, on avait attendu que tout soit perdu pour me lancer dans la fournaise. Le spectacle était tragique. Séoul flambait et un feu roulant de mortiers nord-coréens harcelait les approches des ponts. Au-dessous de moi, les flots des colonnes sudistes, fuyant en désordre, coupés par les ambulances, mêlés aux foules des réfugiés. Et sur cette colline déjà arrosée de sang, j'élaborais un plan. Alors, ce plan, c'est d'abord de se jeter dans la bagarre et de tirer dans le tas. C'est pas moi qui le dis, c'est MacArthur lui-même. Il veut agir vite, il veut faire croire à une réponse massive, il veut stopper l'avancée des troupes du Nord. Sauf que l'intervention américaine va ralentir l'invasion, mais ne va pas l'arrêter. À la fin du mois d'août, les Nord-Coréens, qui sont armés par les soviétiques, ça il aurait quand même, il faut que je vous le dise, hein, c'est évident. Les Nord-Coréens armés par les soviétiques occupent une très grande partie du pays. On estime à 90% la zone de cette péninsule coréenne occupée par les Nord-Coréens à la fin du mois d'août 1950. Alors les Sud-Coréens, eux, avec les Américains, ont pu organiser une retraite sans trop de casse. Et maintenant, ils sont circonscrits dans un assez petit périmètre. C'est le sud-est de la péninsule. Ils sont là qui se battent dans une zone de plus en plus réduite et qui est dos à la mer. Ils se battent dos à la mer. MacArthur envoie son aviation bombarder la zone occupée par Kim Il-sung. Il lâche des bombes conventionnelles, mais aussi des bombes au napalm. L'historien Bruce Cummings, dans Le Monde diplomatique de décembre 2004, racontait, je le cite, « Le 16 août, cinq formations de B-29 frappèrent une zone rectangulaire près du front qui comptait un grand nombre de villes et de villages et créèrent un océan de feu en larguant des centaines de tonnes de napalm. Un ordre semblable fut émis le 20 août et le 26 août, on trouve dans les archives la simple mention « 11 villages incendiés ». À Washington, on pense que la guerre est perdue. On pense ça partout. Hein. Les chancelleries européennes en sont convaincues de leur côté. Seulement, MacArthur est là, qui prépare sa contre-offensive. Il veut lancer un débarquement au beau milieu du pays, donc vers le 38e parallèle. Il veut prendre en tenaille l'armée communiste dans le sud de la péninsule. Le 23 août, à Tokyo, où il est de retour, il réunit une conférence militaire. Les commandants des Marines et de l'armée de terre font le voyage depuis Washington. Donc tout le monde est là sous le commandement de MacArthur à Tokyo. Et il est là, MacArthur, qui présente son plan. Débarquer à l'ouest de Séoul et puis ensuite aller prendre Séoul, ce qui permettrait de couper l'armée nord-coréenne de ses bases arrières. On la couperait en deux, si vous voulez, par le milieu. Pour le commandant des Marines, ce plan est complètement irréalisable. C'est une folie, dit-il. Ça impliquerait de passer par un chenal dangereux, qu'on appelle le chenal du poisson volant, dont les courants sont très puissants. Ensuite, les navires risquent d'aller s'envaser à cause des marées qui sont trop fortes. Et puis, ils vont faire, ces navires, des cibles parfaites pour les Nord-Coréens. Le chef de l'armée de terre, d'ailleurs, est d'accord avec son collègue des Marines. Ils disent « Non, c'est trop périlleux ». MacArthur les écoute, il reste un moment silencieux et puis il tranche. Le commandement ennemi ne pensera jamais que nous oserons prendre de pareils risques. Or, c'est la surprise qui est l'élément vital de la victoire, dit-il. Si nous tenons Séoul, le système de ravitaillement de l'ennemi sera paralysé. Oh, les autres sont sidérés, ils se disent « mais il va pas faire ça ». Eh bien, non seulement il va le faire, mais il obtient pour le faire l'aval de Washington. C'est décidé, MacArthur va débarquer au cœur de la Corée, envahie par Kim Il-sung. De Strike Up the Band de Gershwin, l'orchestre philharmonique de Buffalo était sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Vous écoutez Radio Classique.
À 3h du matin, ce 15 septembre 1950, 15 septembre, MacArthur est sur le pont de l'USS Mont McKinley. Il navigue, il fait route vers la Corée. Dans l'obscurité, le général remarque une lueur à quelques milles. C'est un phare. Les Nord-Coréens n'ont même pas éteint leur feu nocturne. La flotte américaine est poussée par la marée montante. On emprunte comme prévu le fameux chenal du poisson volant et les Américains lâchent une pluie de bombes sur les défenses nord-coréennes qui sont assez vite anéanties. 40 000 Marines vont réussir à débarquer. Bref, l'opération imaginée par MacArthur et qui paraissait tellement irréalisable à ses confrères, l'opération est un succès. Et dans la foulée, MacArthur donne l'ordre de foncer sur Séoul. En quelques jours, la capitale est reprise. Au sud du 38e parallèle, l'armée de Kim Il-sung est coupée de son commandement. Elle est coupée de son ravitaillement. C'était ça ce que voulait le stratège américain. Et comme prévu, cette armée va se déliter et assez vite, elle n'a pas le choix. Elle va devoir se retirer au nord. MacArthur la poursuit. Il ne s'en tient pas là. Il ne s'arrête pas au 38e parallèle. Il franchit à son tour le parallèle et il la poursuit au nord, toujours plus au nord en direction de la Chine. De sorte qu'un mois après le débarquement, le président Truman va pouvoir s'offrir une tournée triomphale dans le Pacifique. Il est victorieux, Truman. Il demande à voir MacArthur, bien entendu. La rencontre va se tenir sur l'île de Wake. Alors, il faut imaginer ces deux hommes que tout oppose. C'est assez étonnant, d'ailleurs, de les voir. Le petit monsieur qui a l'air d'un petit civil comme ça à lunettes, le président Truman, et puis cette espèce de colosse MacArthur, toujours habillé, toujours étoilé, si je puis dire. Les deux hommes se jaugent. MacArthur allume sa célèbre pipe de maïs, et derrière, vous savez, c'est des pipes qui sont taillées dans un épi de maïs. C'est très américain, ça. Et derrière les volutes de fumée, il observe le président Truman. Il écrira dans ses mémoires « En ce qui concernait l'Extrême-Orient, Truman connaissait seulement peu de choses. » Pierre Anquetin a préparé l'émission de ce matin et il nous le dit, la rencontre se poursuit par une réunion avec d'autres stratèges sur les questions militaires en Asie. À la fin, un officier demande « La Chine ne risque-t-elle pas d'intervenir en Corée ? » Et tout le monde assure que non. MacArthur lui-même n'y croit pas. Les officiers, dans ces conditions, se séparent satisfaits. Le président peut repartir, il reprend son avion. Quant à MacArthur, il repart à la tête de son offensive contre la Corée du Nord. Le 20 octobre, Pyongyang, cette fois on parle de la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang tombe. 20 octobre 1950 seulement, voilà. Dès le lendemain, 21 octobre, les forces de l'ONU vont rencontrer une résistance nouvelle puisqu'elles se trouvent nez à nez avec 3 divisions de l'armée populaire de Chine. Ah, là, c'est un changement de dimension dans ce conflit coréen. C'est un peu la stupéfaction, il faut bien le dire. La Chine, que l'on croyait un peu sur la réserve dans cette affaire, la Chine populaire vient d'entrer dans le conflit. Le 27 novembre, ce ne sont plus 3 divisions, mais 7 armées chinoises qui se lancent dans la bataille. Et là, MacArthur n'a pas le choix, il est bien obligé de sonner la retraite. C'est la deuxième fois. Les forces de l'ONU reculent sous le 38e parallèle, puis encore un peu plus bas, et puis encore un peu plus bas. Elles passent sous le 30e parallèle et elles abandonnent Séoul. Et en se retirant, MacArthur va pratiquer une politique assez terrible. Vous savez ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Systématiquement, il fait bombarder tout le nord, les équipements militaires, les usines, mais pas seulement. En décembre, en janvier, il va jusqu'à incendier Pyongyang au napalm. Et d'ailleurs, il va faire subir le même sort à la plupart des villes du nord. Au total, ce sont des centaines de milliers de civils qui vont être ainsi massacrés, des centaines de milliers de victimes civiles. Un attaché militaire britannique décrira le nord-ouest de la Corée comme une étendue déserte de terre brûlée. Et il n'y a pas que le nord qui soit touché, le sud l'est aussi. George Barrett, qui est le reporter du New York Times à l'époque, nous raconte le 8 février 1951 une scène dans un village à Anyang, on est donc là en Corée du Sud. Les habitants de tout le village et des champs environnants furent tués, raconte le reporter américain. Ils conservèrent exactement l'attitude qu'ils avaient lorsqu'ils furent frappés par le napalm. Un homme s'apprêtait à monter sur sa bicyclette. Une cinquantaine d'enfants jouaient dans un orphelinat. Une mère de famille étrangement intacte tenait dans la main la page d'un catalogue. Ça fait penser à ce qui s'était passé à Pompéi, vous savez, sauf que là, ça n'est pas un volcan. Là, ce sont des attaques humaines. Alors, est-ce que tout ça va quand même restreindre MacArthur ? Est-ce que ça va freiner MacArthur, me pensez-vous ? Lui est persuadé qu'il peut encore gagner la guerre à condition de bombarder la Chine. Ah oui, oui, il ne recule devant rien. Inutile de vous dire qu'à Washington, on n'est pas du même avis. Truman refuse d'attaquer la Chine sur son sol. Il demande à MacArthur de tenir une résistance prolongée. Le général s'exécute, ses troupes parviennent à remonter jusqu'au 38e parallèle et à la fin du mois de mars, voilà ce qu'écrit MacArthur. Tout va bien au front, les lignes d'approvisionnement de l'ennemi subissent une terrible punition sous l'implacable bombardement aérien et naval de nos forces. La Corée du Sud est maintenant pratiquement débarrassée des forces ennemies. La vérité, c'est que si MacArthur obéit au président des États-Unis, il n'a quand même pas le choix, au fond, il n'en pense pas moins. Il adresse encore plusieurs propositions à Truman et des propositions qui ont plutôt tendance à inquiéter les salons feutrés de la Maison Blanche. Par exemple, voilà ce que propose MacArthur. Couper définitivement la Corée de la Chine en établissant un champ de déchets atomiques en travers de toutes les lignes de communication. Vous voyez un peu où on en est. Dans un autre courrier, il préconise carrément l'emploi de 26 bombes atomiques. Il réclame en plus d'avoir le libre usage de ces bombes sans restriction. Vous imaginez bien que Truman ne peut pas confier la bombe à MacArthur. Or, MacArthur va encore plus loin. Il écrit à un représentant du Congrès qui lui demandait son opinion. Il semble que certaines personnes, voyez qui il vise, que certaines personnes aient beaucoup de peine à comprendre que c'est ici, en Asie, que les conspirateurs communistes ont choisi de lancer leur épreuve de force pour la conquête du monde. La lettre est publiée à un moment où Truman essayait justement d'ouvrir des pourparlers avec Moscou et Pékin. Ça ne tombe pas très bien. Bref, l'impétueux MacArthur devient gênant, et même très gênant pour la diplomatie américaine. Et le 11 avril 1951, à 1h du matin, heure américaine, Truman convoque une conférence de presse. Il annonce que le général MacArthur est relevé de son commandement en Extrême-Orient et en Corée. Il le remercie évidemment pour, je cite, les service exceptionnellement distingué qu'il a rendu à son pays dans des postes de grande responsabilité. Bref, blablabla, la réalité c'est que MacArthur est débarqué. La guerre, elle, continue. Le contexte de ce matin, il y a quelque chose d'ironique évidemment et de grinçant dans ce final du concerto pour piano en fa de George Gershwin. C'est Jean-Yves Thibaudet qui était au piano, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Baltimore sous la direction de Marie Nalson.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le problème avec ce limogeage de MacArthur, c'est que le principal intéressé pour l'instant n'est pas au courant. Ce matin-là, à Tokyo, il est en train de finir son déjeuner à l'ambassade des États-Unis. Sa femme reçoit un coup de téléphone. C'est un aide de camp qui a entendu la nouvelle à la radio. Il écoutait de la musique, flash, il entend ça. Donc il prévient Madame MacArthur, qui s'en va retrouver son mari. C'est elle qui va donc annoncer au grand patron des armées d'Extrême-Orient, les armées américaines, lui annoncer son éviction. Le vieux général ne perd pas son sang-froid. « Jeannine, dit-il, nous rentrons enfin chez nous. » En réalité, le grand chef est vexé comme un pou. Il écrit « Il n'y a pas de femme de ménage ou de servante qui ait jamais été renvoyée avec plus de mépris des formes élémentaires de politesse que je ne l'ai été. » La raison invoquée par Truman, c'est un doute sur les capacités de MacArthur à soutenir le gouvernement. Vous avez bien compris quelles sont les raisons réelles. Or, de retour aux États-Unis, MacArthur va être accueilli en héros. « J'eus l'impression, dira-t-il, que le pays tout entier voulut me serrer sur son cœur. Je fus acclamé par des gens de toute origine, sans doute parce que la façon assez ignoble dont je venais d'être traité m'avait rendu plus populaire que mes 52 ans de service et de campagne. » Il est remplacé à la tête des forces de l'ONU par le général Ridgway, qui est nettement moins 20 ans guerre, et Truman, bien sûr, a décidé qu'on n'emploierait plus l'arme atomique. Ridgway mène de violentes offensives, il parvient à reprendre Séoul, à repousser les troupes sino-coréennes au nord du 38e parallèle. La situation va se figer dans ce qu'il faut bien appeler une guerre de position, avec des batailles qui, entre parenthèses, demeurent très sanglantes. Et en juillet 51, on commence des pourparlers qui n'aboutiront qu'après la mort de Staline. L'armistice n'est signé que le 27 juillet 1953. La ligne de démarcation qui étant entérinée est extrêmement proche de celle qui existait avant le conflit.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au total, 700 000 tonnes de bombes, je dis bien 700 000 tonnes, et 30 000 tonnes de napalm ont été déversées sur cette pauvre Corée. Le général Curtis LeMay, qui commandait le Strategic Air Command, le reconnaîtra plus tard. En 3 ans, dira-t-il, nous avons incendié toutes les villes en Corée du Nord, de même qu'en Corée du Sud. Il faut ajouter à tout cela, évidemment, toutes les misères de la guerre, les épidémies, les disettes avec des gens qui meurent de faim. Bref, le nombre de victimes civiles de la guerre de Corée est estimé à 4 millions. Vous imaginez, 4 millions de morts, selon l'historien français Jérôme de Lépinoy. L'historien sud-coréen Eoman Oh, je dis bien sud-coréen, parle, lui, de 5 millions de morts. De quoi troubler MacArthur ? Même pas. Jusqu'à sa mort en 1964, le général MacArthur regrettera que les États-Unis n'aient pas envoyé l'arme atomique contre la Chine communiste. Quant aux deux Corées, c'est vrai qu'elles ont signé un armistice, je vous l'ai dit, le 27 juillet 1953, mais normalement les armistices sont suivis de traités de paix. Eh bien le traité de paix, en l'occurrence, il n'a jamais été signé, ce qui signifie, vous le savez sans doute, qu'aujourd'hui encore, en principe, les deux Corées sont toujours en guerre.
Vous écoutez Radio Classique.
Les guerres et les crises économiques génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les hôpitaux et les écoles sont en danger. Pour reconstruire, soigner, éduquer, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Les crises se multiplient, avec vous, nos forces aussi. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur oeuvre-orient.fr.
Radio Classique et la salle Gaveau présentent La Voix des Anges, un concert exceptionnel avec Franck Ferrand et le contre-ténor Philippe Jarouski. Venez revivre l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire de la musique. Les castrats et leur voix à la délicatesse, puissance et virtuosité stupéfiantes. La Voix des Anges, avec Franck Ferrand et Philippe Jarouski. Un concert Radio Classique, jeudi 20 février, Salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur sallegaveau.com.
Greuze. Qui ne connaît pas ces portraits d'enfants rêveurs ou effrayés, surpris ou émerveillés, que l'on trouve dans tous nos livres et nos musées. Peintre des Lumières, ami de Rousseau, Greuze redéfinit la place de l'enfant et de la famille dans la société pré-révolutionnaire. 50 œuvres de ce grand peintre provenant de 25 collections privées, européennes et américaines, sont pour la première fois exposées à Paris, à la galerie Éric Coatalem, 136 Faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 20 décembre.
Véronique Bougardier, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le cabinet Bougardier, le spécialiste du crédit hypothécaire. On parle beaucoup de nos jours de la fiducie sûreté. Alors de quoi s'agit-il ?
Imaginez, vous êtes propriétaire d'une chaîne d'hôtels que vous cherchez à développer. Grâce à la fiducie sûreté, en apportant vos parts sociales en garantie, vous pouvez obtenir un financement bancaire.
Alors pourquoi est-ce que c'est innovant ?
Parce que c'est un outil de garantie très sécurisant pour le prêteur et qui vous dispense d'ouvrir votre capital.
Et pour en savoir plus sur la fiducie sûreté, rendez-vous sur bougardier.fr. À très bientôt.
14h30, 17h, Tempo, avec Pauline Lambert, sur Radio Classique.
Et c'est avec toujours le même enthousiasme que je vous retrouve en direct sur Radio Classique, en espérant que vous avez passé un très beau week-end. Je suis ravie aussi de retrouver le duo de choc, déjà en train de déguster du chocolat. J'ai nommé Jérémy Vigori et Lucille Metz. Jouer au bois, résonner musette et trompette, ce pourrait être la devise de cette émission aujourd'hui, avec ce thème que je vais décliner dans votre tempo des auditeurs et dans la fantaisie. Tout d'abord, tempo des auditeurs, quelle est la musique que vous avez envie d'écouter pour vous mettre dans l'ambiance de Noël? Vous nous écrivez via radioclassique.fr, les réseaux sociaux ou via l'application sur votre téléphone. Nous modifions en direct à 15h30 la programmation pour y glisser vos propositions. Et puis à 16h30, ce sont donc les trompettes qui vont résonner sur notre antenne, les trompettes de la renommée. Et pas étonnant que les trompettistes fassent un buzz pour s'entraîner, car la trompette est un instrument éclatant qu'on ne peut pas rater. Je vous ai déjà parlé du cor, du trombone, du tuba. Voici donc aujourd'hui un autre cuivre qui est bel et bien pistonné. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tempo.
Thank you.
Et nous ouvrons cette émission et même toute cette semaine avec un tempo allegro, les premières notes de la 5e symphonie de Franz Schubert avec Biroc Orchestra et celui qui en est un peu le père spirituel, René Jacobs. Schubert, vous savez, c'est ce compositeur qui a passé toute sa vie à Vienne, ou presque. Il n'a quasiment jamais quitté la capitale autrichienne. Et ça n'est pas le moindre des paradoxes pour ce musicien qui incarne à lui tout seul le voyage et même l'errance. Vienne, c'est bien sûr la ville où officie Beethoven, qui est à la fois un modèle, mais aussi un poids pour lui, dont il a pu se libérer à la disparition du compositeur. Alors le voici, Beethoven, sa 11e sonate pour piano par Murray Peraya.
Thank you.
Radio Classique.
Après Beethoven, c'était encore Beethoven sur Radio Classique. Nous écoutions tout à l'heure sa 11e sonate pour piano par Murray Peraya. Et puis à l'instant, ce joli rondino sur un thème de Beethoven, repris par Fritz Kreisler dans cette version de Ville de Frang avec Rosé Gaillardeau. Nous allons ouvrir dans 5 petites minutes une nouvelle case du calendrier de l'Avent musical. Mais tout d'abord, pour se mettre dans cette ambiance de fête, écoutez la valse du baiser de Johann Strauss fils.
Thank you.
Mais oui, vous aussi, vous pouvez les applaudir. Le Philharmonique de Vienne et Franz Welser-Möst, comme ici à Vienne en 2013, dans cette valse du baiser de Johann Strauss-Fils. Alors moi aussi, je vous embrasse très amicalement, cela va de soi. Et je vous propose d'ouvrir ensemble, en ce lundi 9 décembre, une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Lucille est toute prête, elle a même sorti ses boucles d'oreilles sapin. Le sapin est décoré dans les couloirs de la radio. Alors allez, c'est parti.
Le calendrier de l'Avent avec Pauline Lambert. C'est Noël sur Radio Classique.
Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, es ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Mädchen, hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bringt euch milde Gaben, sollt euch dran erlaben. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Hell erglühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen, will drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling.
C'est un de ces albums de Noël que l'on aime tant. Sur la pochette, Jonas Kaufmann nous embrasse, nous envoie de la neige sur un fond rouge. Il chantait ici ce « Klinglöckchen résonne, petite cloche résonne ». Noël traditionnel avec Jürgen Rieder et avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg.
Pour Noël, offrez des livres XO. Pour ne rien regretter, d'Henri Lovenbruck. Soudain, une voix s'élève, celle de Vera. Une voix inoubliable qui va réveiller les consciences.
Pas à pas dans la nuit, de Bambou. Le livre confidence de celle qui a partagé les 13 dernières années de Serge Gainsbourg. Un récit bouleversant.
XO, la bonne idée cadeau.
À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur philharmonie-de-paris.fr.
Retrouvons David Barou, rédacteur en chef du journal Les Échos.
Prêt à percer les mystères du héros légendaire 13? À l'occasion des 40 ans de la célèbre BD, Les Échos Weekend lui consacre un hors-série collector. Décryptage, croquis, reportage, 100 pages richement illustrées pour vous plonger au cœur de cette saga mythique. Un hors-série exclusif Les Échos Weekend en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.
Cette année, Les Arts Florissants vous convient à une saison de célébration pour fêter en musique le 80e anniversaire de leur fondateur, William Christie. Vous pouvez, vous aussi, participer à l'aventure baroque des Arts Florissants, initiée par ce chef de légende, et contribuer à transmettre la passion baroque aux générations futures en soutenant la fondation Les Arts Florissants William Christie. Rendez-vous sur art-florissant.org, rubrique « Nous soutenir ».
Vitalie Tettinger, présidente du Champagne Tettinger.
Une bulle de champagne renferme un rêve d'accomplissement. Cette recherche est au cœur même de la passion qui nous habite et nous fait créer, chez Tettinger, de merveilleux champagnes.
L'instant Tettinger. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.